Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en public, un mot que je n'ai pas prononcé depuis si longtemps, presque un gros mot d'ailleurs, au cloître Saint-Louis pour un masque et la plume consacré à la 75e édition du Festival d'Avignon, enfin déconfiné, qui se déroule jusqu'au 25 juillet et dont le thème est cette année « Se souvenir de l'avenir » avec sur le pont les critiques Fabienne Darche du Monde, Fabienne, l'autre Fabienne Pascot de Télérama. Dans ce métier, toutes les critiques dramatiques se prénomment Fabienne.
Avec c'est indispensable.
Donc, avec donc Fabienne Hélyot du quotidien, du médecin, Jacques Nerson de l'Obs, qui est à l'heure, merci. Et Vincent Josse de France Inter, on parle aujourd'hui de la cerisée avec Isabelle Huppert d'un film de Lars von Trier, Dogville, adapté ou plutôt réinventé au théâtre par Christiane Jataillé, de l'injonction shakespearienne du patron du festival Olivier Py, Hamlet à l'impératif, mais aussi de spectacles signés Angelica Liddell, Caroline Guélan Guyenne, Anne-Cécile Van Dalem. Et je vous rappelle que pendant cette émission depuis Avignon, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas, un micro viendra vers vous pour dire tout le mal que vous pensez des critiques. D'abord, une question évidemment à vous, les critiques. Qu'est-ce que vous éprouvez à retrouver ce festival d'Avignon dont Olivier Py écrit qu'il est une utopie après cette année blanche ou plutôt noire, les Fabiennes ?
Beaucoup de joie, bien
Fabienne
sûr.
Fabienne Pascot.
Oui, beaucoup de joie, ça, évidemment.
Jacques,
évidemment, beaucoup de joie.
Comme c'est bien, vous êtes originaux.
D'émotion.
Avignon, ça fait plaisir, c'est vrai.
Armelle.
C'est très émouvant, d'ailleurs, le premier soir, lorsque dans la cour d'honneur, après une attente de presque 45 minutes pour que ça commence, parce que le pass sanitaire, la pièce d'identité, tout ça, c'était long, dès qu'ont retenti les petits martinets qui sont désormais enregistrés sur les trompettes de jarre, là, il y a eu une ovation immédiate de toute la foule de la Grande Cour, la nouvelle Grande Cour, et on a senti que les gens étaient heureux, remerciés, étaient dans la gratitude.
Vincent ?
Oui, c'est une joie d'être là et de se retrouver ensemble, parce qu'on était tout seul dans son appartement ou dans sa maison, et d'un seul coup, on peut revivre des choses qu'on a connues, qui est d'apprécier ou pas du théâtre ensemble et de le vivre ensemble. C'est quelque chose, mais c'est aussi un sentiment d'étrangeté. Je trouve que c'est pas une année comme les autres. On peut pas faire fi de ce qu'on a vécu, de douloureux cette année. Et je sais pas si on est dans un très bon état de réception, réceptivité des spectacles. Je m'interroge encore.
Et donc évidemment, c'est une année aussi particulière parce qu'on a appris au début de ce festival la nomination de l'acteur, auteur, metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, 44 ans, pour succéder en 2022 à Olivier Py. Cette nomination, en quelques mots, qu'en pensez-vous, Jacques ?
Ben, a priori, j'étais ravi parce que c'est un,
pourquoi,
c'est un jeune metteur en scène.
A priori,
ben, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui est jeune, qui est dynamique. Ça risque de changer les choses et je suis encore plein d'espoir. Malheureusement, c'est un rendez-vous un peu manqué parce que la cerisée est
on
plutôt
va en
décevante.
Parler. On va parler de la cerisée.
Oui, mais voilà.
Armelle.
C'est bien que quelqu'un d'européen soit nommé à la tête du festival.
Et un artiste.
Bon, Vincent. C'est bien qu'un Européen, qu'un étranger soit parmi nous et nous fasse peut-être découvrir d'autres metteurs en scène, des gens qu'on ne connaît pas, des auteurs. C'est un auteur aussi.
Oui, mais enfin, qu'il soit européen ou pas, ou extra-européen,
je pense qu'il peut ouvrir des horizons qu'on ne connaît pas forcément.
Non, mais c'est bien que ce soit quelqu'un qui vienne d'ailleurs.
Ouais, voilà, d'ailleurs.
Soit européen, je m'en fous.
Et le bienvenu.
Moi, je vais prendre le contre-pied de mes camarades. Je ne suis pas ravie que ça soit un artiste. Je pense qu'il y a eu une longue tradition à Avignon et peut-être les moments où le festival a été le plus brillant, c'est-à-dire de 71 à 2013, je crois, où on a le plus découvert de choses, c'était ce qu'on appelle des intendants qui dirigeaient le festival.
Avec Alain Crombec.
Avec Alain Crombec, Bernard Fèvre-Darcier, Baudrier, Paul Piot, Hortense Archambault.
Mais sous Villard, c'était pas mal quand même, je crois.
Oui, mais Villard, en 63, a arrêté de mettre en scène ici et a quitté le TNP de Chaillot.
Mais c'était quand même un artiste.
Preuve qu'on peut pas faire les deux. on demande un artiste parce qu'il a une renommée théâtrale et parce qu'il fait des créations formidables. Simplement, s'il est à Avignon, on lui demande de se consacrer à Avignon. Alors, c'est quand même une tartuffe.
Olivier Py prouve le contraire, il fait les deux.
Il fait les deux, mais il a quand même une programmatrice. C'est pas lui qui programme, Olivier Py.
Il sera entouré, Rodriguez, il sera pas seul.
C'est quoi alors un directeur d'Avignon? S'il a sa programmatrice et s'il a son directeur délégué?
Fabienne Darge.
Oui, alors on n'est plus au temps de Villars quand même. Donc le festival a pris quand même une dimension qu'il n'avait pas au temps de Villars. C'est vrai que moi je m'interroge un petit peu sur la nomination à nouveau d'un artiste, sachant la dimension que le festival a prise et l'énormité, disons, de la tâche et du milieu théâtral qui n'est plus celui du temps de Villars, où il y a beaucoup plus d'écoles différentes de théâtre, etc. Après, je trouve que c'est un beau geste que cette nomination de Thiago Rodriguez, d'abord parce que c'est un très bel artiste, c'est une personne généreuse et ouverte, c'est un Européen, je trouve que c'est une dimension importante. Voilà, a priori, c'est quand même une bonne nouvelle.
On commence justement, je le disais, avec la cerisette de Tchekhov, mise en scène par ce Thiago Rodriguez, futur patron l'an prochain du festival. C'est dans la cour d'honneur du Palais des Papes, entièrement rénové, redessiné et boisé. Un spectacle qui se donne jusqu'au 17 juillet, qui a été diffusé avant-hier, 9 juillet, sur France 5, qui est d'ailleurs toujours disponible, je le dis à nos auditeurs, sur Culture Box. Une cour d'honneur marquée, en tout cas pour moi, en 2000, par la terrible Médée qu'avait incarnée ici même Isabelle Huppert. Et cette fois dans la cerisée, une cerisée new look, sans boulot, ni cerisier, ni encore moins costume d'époque. Elle est Lioubov, pantalon bleu, chemisier jaune, le pivot de la pièce, une aristocrate criblée de dettes dont l'amant a dilapidé la fortune et qui, après avoir vécu plusieurs années à Paris, revient dans sa maison d'enfance, dans ce lieu de mémoire menacé d'être vendu aux enchères. Et à nouveau riche, Lopakhin, qui est joué formidablement d'ailleurs par Adapa Diop, dont les parents étaient serfs sur le domaine, va lui conseiller de construire des chalets d'été. Il dit avant, à la campagne, il n'y avait que des maîtres et des moudjiks. Aujourd'hui, tout à coup, il y a des estivants, mais Lioubov fait la sourde oreille et le moudjik finira par acheter la cerisée, avec également et notamment Marcel Bozonnet en grand-père, Alès Descas, Suzanne Aubert, je ne peux pas citer tout le monde, Isabelle Abreu, Océane Kerati, Grégoire Mont-Saint-Jean, et j'ajoute que la traduction de la pièce est signée Françoise Morvan et André Markovitch, et la musique Elder Gonsalves, les paroles assez limité d'ailleurs, étant signé Thiago Rodriguez lui-même. Voilà, et puis je vous dirai après quand même, surtout pour nos auditeurs qui ne sont pas à Avignon, les dates des reprises de la tournée de La Cerisée. Allez, on commence avec Fabienne Pascaud.
Un petit peu de déception pour cette Cerisée, parce que c'était compliqué pour Thiago Rodriguez. D'abord, c'est la première fois qu'il monte une pièce du répertoire dans son intégralité. D'habitude, il réécrit un peu les textes. Tchekhov, c'est un amour de jeunesse. La première fois qu'il a joué, c'était Platonov avec les Tejestan. Il a dû se trouver mal à l'aise par rapport à cette pièce, qui est la dernière de Tchekhov, comme on sait, une pièce qu'on dit un peu testamentaire, que Tchekhov a écrit à 44 ans avant de mourir, l'âge de Thiago Rodriguez, dont on espère qu'il ne va pas mourir. Donc, il hésite, je trouve, dans cette mise en scène, entre la nostalgie d'une aristocratie ruinée qui va devoir vendre sa maison, sa demeure.
Maison qu'on ne voit pas, puisque
on ne la voit pas.
Sur le plateau, on ne voit que les chaises de l'ancienne cour d'honneur.
Exactement. Et l'espoir dans une société nouvelle incarnée par Lopakhin. Entre ces deux choses, il ne prend pas vraiment de parti pris. On le sent assez mal à l'aise. Moi, je trouve que la métaphore des chaises qui regardent le spectateur, qui montre que le théâtre est le reflet, notre miroir, c'est assez faible. La musique rock...
C'est surtout que c'est un peu lassant.
C'est aussi le monde qui a changé.
Oui,
c'est l'autre monde qui veut montrer.
J'ai trouvé la musique épouvantable, mais je dois dire que pour moi, le spectacle est sauvé par sa distribution. Distribution où il y a la diversité, où on ne s'étonne même pas de voir Alex Descas interpréter le frère d'Isabelle Huppert, où le Lopakhin est Adama Diop, et il est formidable, et surtout, moi j'ai adoré Huppert.
Fabienne Darge.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que Thiago Rodriguez n'a pas tout à fait trouvé sa cerisée. On ne voit pas tellement le dessin de ce spectacle. Et moi, ce qui m'a un petit peu déçu aussi, c'est que la spécificité de Thiago Rodriguez, c'est un peu la déconstruction douce, je pourrais dire. C'est-à-dire que En général, ils ne montent pas une pièce au sens classique du terme. Il y a toujours un travail d'auteur, même quand ils partent d'un texte littéraire comme Bovary. Il y a toujours un décalage, voilà, comme il l'avait fait avec Antoine et Cléopâtre aussi. C'est quand même sa marque. Là, c'est une marque qui n'est pas là. Il monte la Cerisaie, mais du coup, on ne voit pas trop quel est son point de vue sur la Cerisaie. On le cherche un peu tout le long de la représentation, qui est un peu light, je dirais. Voilà, c'est un peu... bon.
Jacques. Bah, écoutez, j'ai l'impression, Fierce raconte pendant la pièce, qu'on a perdu la recette des liqueurs qu'on tirait des cerises séchées qui étaient vendues, des cerisettes qui étaient vendues par les propriétaires de la cerisette. Bah, là, lui-même, il n'a pas trouvé la recette. Il n'a pas trouvé la recette, et notamment, je crois qu'il passe à côté de quelque chose de fondamental, Thiago Rodriguez, qui est la gaieté de la pièce. Car à côté du drame...
Il y a des moments de gaieté quand même.
Ben non, je trouve qu'il les fige, notamment le bal est extrêmement figé, une chorégraphie très lente, c'est très étiré, c'est très dilué. Et malgré le talent d'Adama Diop, je pense à deux cerisées historiques, il y a celle de Brook, celle de Lev Dodin notamment aussi, où il y avait une joie sauvage du jeune parvenu qui arrive à acheter cette cerisée sur laquelle ses parents, ses ancêtres ont sué sang et eau pendant des années en tant que serf. Il en devient le propriétaire, il a une joie extraordinaire. C'est pas du tout un monde nouveau qui arrive d'ailleurs, parce qu'il sera pas un meilleur propriétaire que les autres. C'est pas du tout.
C'est le monde nouveau, c'est pas du tout ce qui est montré.
C'est pas du tout la révolution qui est annoncée.
Non, mais
c'est
c'est
pas un révolutionnaire, c'est le contraire.
En même temps, Lopakhine, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette cerise, je trouve. C'est quand même un Lopakhine d'une force incroyable.
C'est un très bon acteur, mais je pense que la mise en scène de Thiago Rodriguez le dévitalise, et elle dévitalise un petit peu tous les acteurs, Isabelle Huppert, que j'adore, mais qui ne n'est pas, à mon avis, à son mieux, et qui aurait pu être beaucoup plus bouleversante qu'elle
l'est. Elle règne sur le spectacle, pour moi. Elle est entre deux mondes.
Discuter, Fabienne.
Pour moi, elle est au-delà de la bonne ou de la mauvaise actrice. Elle est tout simplement, elle est prodigieuse. Elle peut sautiller comme un cabri.
Pour sautiller.
Tout le monde peut sautiller, franchement.
Oui, mais enfin, il faut savoir le faire.
Moi-même, souvent, le matin, je sautille comme ça.
Ce sont des propos de groupies.
Mais non, c'est pas du propos.
Moi, je trouve que c'est vraiment la cerisée de Lopakhine et pas celle de Lyubov.
Oui, je suis entièrement d'accord.
Donc, la cerisée du père, c'est Pasco, je le dis pour nos auditeurs, et la cerisée de Lopakhine, c'est Darge. Armelle.
Moi, je voudrais faire des remarques un petit peu vulgaires. Je m'étonne beaucoup que mes deux amis, Fabienne Darge et Fabienne Pasco, puissent estimer qu'il n'a pas trouvé sa cerisée, alors qu'il raconte partout que Mademoiselle Huppert est allée le trouver à Lisbonne, et qu'ils se sont mis d'accord sur la cerisée. Donc pour
non, il est dans sa mise en scène, dans le propos, Armelle, c'est flou.
Je suis d'accord, mais bon, il a eu le temps de réfléchir, quand même, c'est un peu embêtant. Et puis moi, je voudrais qu'on parle quand même d'un détail, mais qui, moi, m'a beaucoup gênée, c'est le niveau de sonorisation, qui est épouvantable.
Ils sont tous équipés.
Alors moi, j'étais très bien placée, donc je savais qui parlait, mais mes amis avignonnais, qui étaient un peu plus haut, ils ne savaient pas d'où venaient les voix. Et ça, c'est vraiment inadmissible qu'on fasse une nouvelle cour et qu'on le son ne soit pas réglé. Mais ça, alors, je regrette, c'est des petits pinaillages, mais enfin, ça gâche quand même un spectacle qui, par ailleurs,
mais même le son d'un hélicoptère, à un moment, et tout le monde faisait comme ça.
Allant et venant sans arrêt sur le plateau.
Vincent Josse.
Ben, oui, j'ai du mal à comprendre l'admiration de Fabienne pour Huppert dans
Fabienne
Pasco dans ce rôle, parce que
au-delà du bien et du mal.
Je l'ai vu il y a 15 jours dans le Tennessee Williams à Paris, parce qu'il y a 15 jours elle était encore en scène à l'Odéon. On l'a reprise.
Elle joue exactement le même rôle.
C'est-à-dire qu'elle trépigne, elle est une petite fille énervée sur la scène, elle regarde en l'air.
Bah, c'est un rôle de mère d'ailleurs.
Elle a le même costume.
Un rôle de mère.
Donc elle n'a pas eu le temps encore de laisser tomber ce rôle de mère. C'est assez impressionnant, c'est intéressant d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour elle par ailleurs. J'ai beaucoup aimé, et cette image-là me reste, la première scène où elle arrive pour la première fois depuis 5 ans.
Elle arrive en musique.
Elle arrive dans la cerisée, elle arrive en musique, en chanson. C'est une sorte de comédie musicale qui commence, qui est extraordinaire. On se dit qu'on va voir une cerisée qu'on n'a jamais vue encore, et ça retombe très vite, puisqu'effectivement la musique est lassante, la danse, c'est une sorte de soupine à bauche avec ses chaises qu'on pose, qu'on défait, etc. Et puis on assoit les acteurs qui regardent les autres, et moi j'ai cru un moment qu'elle regardait son portable, Isabelle Huppert. J'ai eu très peur, elle était là dans ses notes ou je ne sais quoi. et ils ne jouent pas ensemble. Alors que Thiago Rodriguez nous dit « J'ai rencontré Tchekhov quand j'étais jeune, j'aime que les acteurs se rencontrent sur un plateau. » Il n'y a pas de rencontre, on enchaîne des
scènes. Les paroles de la chanson qu'il accueille, c'est « Elle est des retours. » Ce qui n'y a pas tellement plus, quoi.
Oui, mais c'est beau. Tu sais, il peut
et
y avoir une image
qui
fait beaucoup de bien. Et alors voilà, on était heureux de retrouver la cour.
Après, en dehors d'Adam Diop, il y a quand même quelques autres très beaux acteurs, je trouve. Et notamment bons, ceux qui jouent les rôles de domestiques sont particulièrement bien.
L'acteur, la cerise de Tchekhov, c'est dans la cour d'honneur. Ça sera repris à l'Odéon, mais en début d'année prochaine, du 3 janvier au 27 février. Et la tournée de cette cerise de Tchekhov Rodriguez se poursuivra à Genève, à Clermont-Ferrand et à La Rochelle, et d'autres villes encore sont prévues. Entre Chien et Loup, sur l'autre scène du Grand Avignon Vedène, jusqu'à demain, 15 juillet, un spectacle de la brésilienne Christiane Jataï, librement adapté du film de Lars von Trier, Dogville, film de 2003, où le cinéaste danois, vous savez, utilisait des traits dessinés au sol et un décor vraiment minimal pour raconter l'histoire de Grace. C'était Nicole Kidman, une fugitive des années 30, réfugiée dans la ville minière de Dogville. Et dans la version théâtrale de Christiane Jataï, qui est une parabole évidemment de la situation du Brésil de Bolsonaro, Grace, qui est rebaptisée Gracia, fuit un régime fasciste et trouve refuge dans une communauté qui s'apprête à expérimenter le propos de Dogville. Et je rappelle d'ailleurs qu'à la Comédie Française, Christiane Jataï avait adapté, on pouvait aimer ou moins aimer, La Règle du jeu de Jean Renoir. Elle tourne beaucoup donc au sens propre autour du cinéma. J'ai lu Fabienne Darge dans Le Monde cette semaine, une Fabienne Darge déçue par ce spectacle de Jataï.
Mais oui, j'ai été déçue, alors même que je trouve Christiane Jataï une metteuse en scène extrêmement brillante, qui a vraiment inventé, on peut le dire, une forme de théâtre-cinéma pour aujourd'hui, quand même d'une intelligence et d'une virtuosité souvent quand même très étonnante. Là, oui, on est déçus, notamment par rapport au film. C'est évidemment impensable de ne pas avoir le film en tête quand on l'a vu, même quand on ne l'a pas revu récemment. Moi, je l'ai pas revu récemment.
Film, hein.
C'est quand même un très grand film.
Radical, mais très grand film.
Voilà. Et là aussi, on ne comprend pas trop ce qu'elle veut faire, si ce n'est... moi, j'avais compris qu'il devait y avoir une sorte de mise en abîme un petit peu successive. Et finalement, c'est une adaptation. C'est juste une adaptation, si je peux dire.
Ce qu'elle veut faire, c'est la référence constante à son pays.
Oui,
même.
Voilà. Je pense que c'est évidemment... La question politique du Brésil est très présente. Et a priori, ça pouvait sembler tout à fait pertinent. Mais à la première, en tout cas ici à Avignon, on sentait les comédiens quand même, de beaux comédiens, mais gênés aux entournures. Les dialogues sont quand même assez pauvres, j'ai trouvé. Donc sur le texte, souvent, ça tombe assez à plat. Et y compris le dialogue entre théâtre et cinéma est moins audacieux qu'il ne l'a été sur d'autres créations de Christiane Jataï.
Armel ?
J'ai trouvé ce spectacle extrêmement faible, ratant sa cible, quoi, parce qu'au fond, le Brésil, on y pense, mais c'est parce qu'on a décidé d'y penser, parce que c'est Christiane Jataï. Mais autrement, pourquoi aller chercher Dogville pour faire ça, quoi? Vraiment,
Vincent.
Oui, bah, j'ai la même déception. Le théâtre qui va chercher le cinéma, les acteurs qui nous disent on va pas faire la même chose que le film.
Très à la mode depuis des années dans le théâtre français.
Ah oui, il y en a d'autres cette année à Avignon d'ailleurs.
Sans nous convaincre jamais. Et puis il y a pas mal d'ennuis, il y a une extrême lenteur parce qu'il faut à chaque fois bouger les décors, bouger les tables, etc. Ça prend du temps. Il y a des personnages qui sont beaucoup là au début, comme le narrateur Tom, qui tombe plus ou moins amoureux de cette femme et qu'on oublie. Il y a l'aveugle qui a un rôle au départ, mais quel est vraiment ce rôle, on ne sait pas, et puis de toute façon on le perd. Donc elle abandonne ses personnages et elle nous perd avec.
Jacques ?
Ben, je trouve que non seulement ça n'apporte rien au film, mais ça lui enlève, ça lui retire et l'essentiel de son intérêt.
Parce que vous l'aviez vu le film ?
Oui. Mais ça m'arrive quelquefois aussi.
Sur un grand écran.
Mais pas forcément, parce que je regarde beaucoup de films sur mon ordinateur.
Je regarde du cinéma sur son ordinateur.
Mais oui.
Oh là là là.
Mais enfin bon, en attendant, le propos est d'une minceur qui confine à l'indigence. Quoi. C'est vraiment deux heures perdues.
Bienvenue au Festival d'Avignon, Fabienne Pascot.
Eh bien, Vincent disait tout à l'heure que les spectateurs étaient un petit peu perdus, ne savaient pas comment regarder. Moi, je reviens du Festival de Cannes là, Et les films de Cannes, ils ont été faits parfois longtemps avant le Covid. Il y en a qui sortent après 2 ans. Là, on traverse des créations faites par des metteurs en scène, des auteurs qui ont traversé le Covid. Et cette confusion dont on parle tous, qui pour moi est la ligne de tous les spectacles dont on va parler, je ne comprends pas très bien ce que veulent dire les metteurs en scène. Quel est leur propos ? Je me demande si ce n'est pas dû à ce qu'on vient tous de traverser, si ce n'est pas dû au désarroi profond qu'ils ont en eux, et si ça ne reflète pas ces 2 années terribles. Parce que là, je comprends pas non plus très bien ce qu'elle a voulu dire. Christiane Jataï, or c'est une fille magnifique et une créatrice magnifique. Et même dans sa manière de conjuguer théâtre et cinéma, comme le disait Fabienne, avec des séquences qui ont été déjà tournées, des séquences qui sont tournées en direct.
Bon, enfin, ça n'a aucun rapport avec le Covid, tout ça.
Mais si, parce qu'elle a créé son spectacle maintenant, il n'y a pas longtemps. Et ça ne parle pas du Covid du tout. Bah, évidemment que ça ne parle pas du Covid. Bon,
bah alors, pourquoi
enfin, vous prenez pour une nouille. Je parle de l'état d'esprit. Essayez de réfléchir un peu. Vous n'avez pas été troublé.
J'y arrive pas.
Tous les citoyens français ne sont pas troublés parce qu'on vient de vivre. Eh ben, les créateurs n'échappent pas à la règle.
Ah bon.
Et là, c'est le côté militant de Christiane Jataï qui prend le pas un peu trop, et c'est un peu didactique, je trouve.
Il faut dire que c'est un spectacle, Fabienne, sans Isabelle Huppert aussi. Hein.
Donc, hélas.
Entre Chien et Loup, c'est donc Grand Avignon Vedende. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce spectacle ? C'est une réaction. Le micro va venir vers vous, madame. Nous sommes ici dans la cour du cloître Saint-Louis à Avignon.
Moi, je suis assez indignée quand même par l'indigence des spectacles que je vois. Je trouve qu'on se fiche de nous. On nous prend en otage avec un discours. À la fin, on n'ose rien dire, évidemment, sur le Brésil. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Les comédiens font un travail. Mais les textes, on peut, c'est du café, du commerce. Je ne sais pas pour qui on nous prend.
Merci pour votre sincérité. Et cette émission sert aussi à l'exprimer. Pour ceux qui en ont encore envie, sachez qu'Entre Chien et Loup sera en tournée en octobre. Attendez-vous à les voir arriver à Tarbes, à Foix, et puis en novembre à Caen et à Villeurbanne. Allez, Hamlet à l'impératif, point d'exclamation, ce n'est pas seulement un ordre, c'est aussi le feuilleton que signe jusqu'au 22 juillet. À midi, précise au Jardin Sécano, Olivier Py, le patron toujours du Festival d'Avignon. Un spectacle conçu avec des comédiens amateurs et professionnels, des élèves de l'école régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille, 2 anciens participants des ateliers du Centre pénitentiaire d'Avignon et dans une traduction de Shakespeare signée par Olivier Py soi-même, son idée étant, vous le savez sans doute, d'ajouter à la pièce tous les discours qu'elle a inspirés et produits au XXe siècle, de Heidegger à Derrida et de Freud à Lacan. Alors, to be or not to be au Jardin Sécano, Jacques ?
D'abord, je n'ai pas assisté vraiment à un épisode du feuilleton, mais à un spectacle complet, ramassé.
Oui, parce que c'est ce qui va être aussi
Hamlet
redonné.
Voilà,
en 2 heures.
Voilà. Ah ouais.
Et je dois dire que j'ai été d'abord ébloui par les comédiens dirigés par Olivier Py, choisis et dirigés. Et vraiment, c'est un très, très beau travail. Par ailleurs, je n'ai pas eu l'impression d'assister à une pièce de théâtre, mais à une conférence illustrée. C'est-à-dire que Shakespeare sert, les extraits de Shakespeare servent à illustrer les commentaires d'Olivier Py, qui ne sont pas idiots du tout, c'est pas ce que je dis. Ils sont même souvent très pertinents. Mais j'ai l'impression que c'est plus un travail de prof qu'un travail d'artiste. Et par moment, on aimerait quand même que la parole soit laissée à Shakespeare, même si ce que dit Olivier Py est intelligent, mais je préfère voir Shakespeare, entendre Shakespeare quand je vais au théâtre, plutôt que d'avoir un cours.
Vincent,
t'es un petit peu sévère. C'est une variation sur Hamlet. Ça ne prétend pas te présenter Hamlet, mais ça te l'éclaire sous un jour nouveau. Moi, j'ai appris pas mal de choses, et finalement, c'est rare d'apprendre des choses quand on va voir un spectacle. J'aime bien le côté savant d'Olivier Py. Ben oui, t'apprends pas toujours des choses à ce point-là, savoir qu'il y a plusieurs rédactions de être ou ne pas être qu'il a proposé.
Oui, mais tu peux lire ça.
Tu peux lire ça, mais tu peux le voir aussi avec la forme du théâtre, parce qu'il sait quoi faire d'acteur sur un plateau. Il dirige merveilleusement des amateurs, des étudiants de Cannes, de Marseille, des gens de la région. Tout le monde travail vraiment ensemble avec l'envie de transmettre des choses avec la grande culture d'Olivier Py. Puis je trouve que sur ces petites versions-là, il est toujours très bon, il est toujours très vif. Et on ressort avec pas mal d'énergie et l'envie, justement, de voir Hamlet.
Armel.
C'est formidable. C'est le meilleur spectacle d'Avignon. C'est le meilleur rendez-vous d'Avignon. C'est Olivier Py dans tous ses dons. Moi, j'avais pris un peu d'avance, j'avais lu le texte qui est publié chez Actes Sud, Hamlet à l'impératif. Et en fait, c'est un dialogue savant. Il s'amuse et en même temps, il instille des tas de choses très drôles et très intelligentes sur Shakespeare. Shakespeare, ça nous passionne tous. On peut pas aimer le théâtre sans s'interroger et s'amuser sur To Be or Not To Be ou sur Qui va là, comme l'avait fait Brooke. Et là, avec ses élèves dont parle très bien Jacques, qu'il a dirigé admirablement, les détenus, les anciens détenus qui sont libres maintenant et qui font du théâtre, les élèves de l'ERAC.
Oui, ils sont libres, oui, sinon
Ah, non, mais parce qu'on les a vus jouer encore prisonniers, si j'ose dire. Et puis quelques amateurs fervents, ça donne des rendez-vous, mais jubilatoires, ça donne envie d'aller voir d'autres pièces, ça donne envie d'aller au théâtre. Ça donne envie que Olivier Py soit renommé pour 10 ans à la tête du Festival d'Avignon. Mais c'est vrai.
Tu vas pas réécrire l'histoire.
On n'a pas toujours aimé ce qu'il fait. Il y a eu des choses plus ou moins fortes dans son. Mais quand on pense à tout son parcours, avant qu'il soit nommé directeur.
Ah non, on refait pas la biographie
jusqu'à
d'Olivier
maintenant.
Non,
mais...
non.
On a quand même beaucoup de grands rendez-vous. Et c'est ça, c'est à ce mot que je reviens, jubilatoire. Et intelligent, et avec la poigne d'un metteur en scène remarquable qui fait grandir les acteurs.
Ben maintenant, c'est Thiago Rodriguez. Fabienne Pasco. Ah,
oui, moi, je suis d'accord avec mes camarades. J'ai vu les épisodes, je n'ai pas vu le spectacle complet, mais c'est un ravissement, quoi. Et c'est tout Olivier Py, parce qu'il y a la bibliothèque, donc on sait que c'est un grand intellectuel aussi, un poète, Olivier Py. Il y a cette scène en forme de croix, qui veut dire aussi le thé de la croix et le thé du théâtre. Et tout à coup, on est intronisé dans Shakespeare, on ne comprend pas tout. Hein. Moi, je n'ai pas tout compris à chaque fois, puisque sont invités Heidegger, Wittgenstein, Lacan,
oui, mais c'est pas grave,
Freud,
mais
c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, même les bribes qu'on saisit et qui font pétiller l'esprit, on rit, c'est drôle. Et surtout, cette communauté retrouvée
tout
sur scène.
Tout est joué de manière un peu bouffonne, sans arrêt, je trouve c'est un peu monotone. Mais je n'ai pas vu le feuilleton, encore
pas
une fois. Je n'ai pas vu les élèves, je n'ai pas vu les détenus, je n'ai vu que des comédiens professionnels.
Et puis des comédiens, des amateurs, des gens d'Avignon, des handicapés, d'ex-prisonniers. Je trouve que la magie du vivre ensemble, là, elle était formidablement retrouvée.
Mais non, mais c'est vrai.
C'est du vrai vivre ensemble.
Fabienne Dard.
Et puis c'est gratuit.
Alors, je suis désolée, je vais rompre ce superbe consensus.
Je t'ai vu saisir les mentailles, là, je me suis dit, oh,
voilà, méchante. Mais non, moi, je suis désolée, mais pour moi... C'est ce que fait Olivier Py depuis quelques années. Je trouve notamment que le jeu est extrêmement lourd, que le propos est souvent quand même très emphatique. Non, déjà Vitesse et Mesguich, pour moi, c'est pas du tout pareil. Mais alors pas du tout.
Pour le jeu des comédiens.
Donc bon. Non, je trouve que c'est souvent quand même très emphatique, avec des grandes phrases sur
le théâtre. Mais en fait, tu t'amuses pas, Fabienne, tu ris pas, tu es pas émue,
non,
tu es pas admirative devant tous ces jeunes acteurs extraordinaires.
J'ai trouvé les jeunes qui sortent de l'école de Cannes très bien, je tiens à le dire. Et par ailleurs, je trouve que c'est aussi révélateur de notre époque où de plus en plus le commentaire sur l'œuvre se substitue à l'œuvre elle-même.
Mais non,
Et moi, j'ai eu beau voir.
Hamlet, on peut. Hein.
J'ai eu beau voir un certain nombre d'Hamlet dans ma vie. Je préférerais voir un bel Hamlet plutôt qu'un commentaire sur Hamlet. Voilà.
La reprise du feuilleton très important en intégrale, ça, je dis ça pour Jacques qui va y aller, c'est le 12, 13 et 14 août au Mucem de Marseille, où là, tu auras l'intégralité.
Je vais me précipiter.
Voilà. Hamlet à l'impératif, est-ce qu'il y a des réactions ici,
madame?
Oui, une réaction dans la cour du cloître Saint-Louis, madame.
C'est une magnifique leçon de théâtre et j'ai trouvé ça magnifique, ébloui. Et c'est plein d'originalité, plein de... Enfin, ça m'a bouleversée.
Est-ce qu'il y a... encore une réaction tout devant, deux réactions devant, encore une derrière. Décidément.
Je vais ajouter au concert des loges, en attirant sur l'attention qu'il a été dit que c'était un genre de glose, et que c'était un cours. Mais d'abord, faire un cours pas ennuyé, il faut le faire. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est aussi une méditation sur le temps. Ouais. C'est une méditation sur les mots. Pardon. C'est une méditation sur l'engagement. Et je crois que cette histoire d'engagement qui est toujours là, qui revient tous les jours comme un leitmotiv, qui fait le centre du résumé, de la synthèse. Hein. Donc tout ça, c'est que veut dire le mot acte ? Acte, le théâtre, je ne vais pas paraphraser, mais c'est ça. Et c'est quoi agir ? Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait du Covid, de la crise, qui est derrière nous. Elle n'est pas derrière nous, mais enfin, ça, ce n'est pas le problème. Mais tout d'un coup, on se trouve face à un metteur en scène, un écrivain, un poète, qui arrive à mener tout ce monde. Et tout ça, ça marche d'un même train et ça nous embarque. Ben, bravo.
Merci pour votre témoignage et votre émotion. Encore deux interventions devant. Madame.
Moi, je ne trouve pas que les spectacles que l'on voit sont nuls ou je ne sais pas quoi. Effectivement, le théâtre aujourd'hui, ce n'est pas aller voir des belles choses qu'on a déjà vues et on n'est pas indemne. Les artistes ne sont pas indemnes et sont marqués par voilà, tout ce qui s'est passé. Et beaucoup font preuve d'engagement. Et le théâtre, c'est ça.
Merci. Une dernière intervention, pour, madame.
Je suis tellement heureuse, mais heureuse, qu'Olivier mérite enfin pour moi cet hommage, parce que c'est quelqu'un de brillant. Et quand je vois le grand extraordinaire qui est un acteur maintenant déclamer cette tirade magnifique, eh bien bravo. Moi j'aurais aimé que tous les profs soient comme Olivier. Au moins les élèves n'auraient pas été dégoûtés de toutes ces pièces que certains, Hamlet, encore Hamlet. Bravo, je suis heureuse, tellement heureuse, vous ne pouvez pas vous imaginer.
Voilà, voilà, c'est donc Hamlet à l'impératif. Vous l'avez compris, d'Olivier Py, à qui on n'aura jamais Redouane envoyé Ragel, autant de roses.
Redouane Ragel, il s'appelle.
Pendant
monsieur.
Un masque
Redouane
à la plume.
Ragel.
Allez, pardon.
Le monsieur dont parlait la dame, c'est Redouane Ragel.
Fraternité con fantastique 2 est mise en scène par Caroline Guélan Guyenne, qui se donne à la Fabrica jusqu'au 14 juillet, 4 ans après le très remarqué Saïgon, dont on avait parlé ici au masque. La jeune dramaturge nous propulse en 2021. Un cataclysme a fait disparaître une partie de l'humanité et toute trace des absents. Et un nouveau type de centre social est alors créé, les centres de soins et de consolation, où les humains luttent contre l'effacement des souvenirs. Elle a réuni pour ce spectacle, là encore, des comédiens professionnels ou amateurs qui parlent des langues diverses et sont âgés de 20 à 80 ans. Fabienne Darge.
Alors, c'est un spectacle qui a énormément de charme, comme tous les spectacles de Caroline Guélan Guyenne. C'est un spectacle qui est un peu inégal, surtout dans sa première partie. Après, il y a quelque chose de très beau chez Caroline Guilla, dans cette foi qu'elle a dans la fiction et de proposer une histoire qui est au départ assez invraisemblable et dans laquelle on rentre malgré tout et qui est quand même une série de métaphores assez magnifiques sur la perte, le deuil, les disparus, comment on peut communiquer avec ces disparus, tous les disparus qu'on porte en soi. Il y a quand même quelque chose de très beau là-dessus. Et il y a une maîtrise du plateau assez magnifique. Un univers qui est quand même très cohérent et qui a énormément de charme.
L'autre Fabienne Pascaud.
Oui, c'est un peu trop ambitieux, je trouve, pour elle, cette dystopie qui flirte avec la science-fiction, comme vous l'avez évoqué, la disparition de la moitié de l'humanité, ces centres de consolation. On essaye de leur envoyer jusqu'aux étoiles des messages, et puis dans une seconde partie, une réflexion, faut-il oublier ou pour survivre, ou faut-il ne pas oublier, quitte à mourir ? C'est beau, mais c'est trop long, c'est un peu diffus. Le spectacle, au départ, faisait 4 heures. Moi, quand j'y suis allée, il ne faisait plus que 3h10. Donc, Caroline Nguyen, elle est mal à l'aise. Je pense qu'elle a voulu trop embrasser et elle a mal étreint. Mais l'ambition, en soi, c'est quelque chose de tout à fait honorable. Et surtout, encore une fois, comme le disait Fabienne, il y a cette qualité sur le plateau de comédien. Je suis désolée, Jérôme, mais c'est encore de vivre ensemble avec des nationalités
avant,
qui se mêlent.
On va tous te donner la main, de toutes les
jeunes,
manières.
Des jeunes, des vieux. Non,
avant
non.
La fin de l'émission.
Mais non, mais c'est un signe de l'époque qu'on traverse. Les professionnels sont avec les amateurs, les origines, les nationalités. Il y a une espèce de concert, de volonté de traverser la
société
d'aujourd'hui.
Tout est dans tout et réciproquement, en somme.
Mais non, mais c'est bien, c'est généreux, c'est généreux. Bon, et puis alors, ce que je voulais dire avant de parler, c'est bravo quand même au festival de cette année. Vous aurez remarqué que la majorité des spectacles dont on parle sont des spectacles de femmes. On n'en avait jamais
nous
autant
l'a
vu.
Bravo.
Bravo, bravo, bravo.
Il y a plus de femmes critiques ce soir à la tribune que d'hommes, Jacques.
Alors, en tant que représentant
de la masculinité faible, essayez.
Moi, je ne suis pas du tout dans votre enthousiasme et même votre indulgence vis-à-vis de ce spectacle.
Enthousiasme, non.
Je m'adressais surtout à Fabienne Darge, que je trouve quand même indulgente, car je trouve que le contenu de ce spectacle est pratiquement nul. C'est-à-dire que je pense que dans une bande dessinée pour enfants de science-fiction, comme en lisent mes petits-enfants, il y a plus de contenu. Là, pendant presque 4 heures, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est la répétition de déploration. Donc les gens vont enregistrer des messages vidéo qui sont censés être envoyés dans le cosmos.
Mais quel beau message.
Oh, non, n'exagérons pas. Je trouve qu'au contraire, les acteurs sont souvent formidables, notamment le couple
Yevtran
Enguia, qui sont vraiment formidables. Mais le texte est très très pauvre. Alors c'est là qu'on s'aperçoit évidemment des limites de la création collective. C'est que cette écriture dite de plateau, elle est plate. Alors pas quand c'est Joël Pommerat, mais là, oui, c'est vraiment très faible. Et c'est le vrai reproche que moi j'adresse à Olivier Py, c'est pendant toutes ces années de Festival d'Avignon, n'avoir pas réussi à faire surgir des auteurs, de vrais auteurs. Là, il n'y a pas d'auteur, je suis désolé.
Qu'est-ce qu'il aurait pu faire?
Les chercher, les trouver.
Il y en a un dans le festival de cette année,
lui-même.
J'en parlerai à la fin.
Lui-même, alors, en tout cas.
Armelle.
Je suis plutôt du côté de Jacques Nerson. Et je trouve que cette faiblesse d'écriture et même d'imagination et de représentation... Mais non, il n'y en a aucune. Mais c'est rudimentaire.
Mais non, c'est simple.
Ça trahit quelque chose qui est effectivement la situation actuelle du théâtre, la faiblesse du théâtre actuel. À part quelques exceptions vraiment remarquables, le niveau des narrations... Le niveau de l'exigence artistique est quand même assez déconcertant.
Vincent,
vous pouvez pas dire ça.
Non.
J'ai le droit. J'ai ressenti ça.
C'est pas parce qu'il y a des déceptions. C'est pas parce qu'il y a des déceptions dans ce début du Festival d'Avignon que tu peux dire ça en général.
Non, mais j'ai le droit. Je vais au théâtre tous les soirs, toute l'année.
Oui.
Ça va. C'est pas une adresse contre ces artistes et en particulier ces femmes, mais c'est faible.
Moi, je l'ai aimé, la température de ce spectacle qui, comme le disait Fabienne, mériterait encore d'être coupée. Je pense qu'il y a une heure en trop et ça ne m'empêche pas d'aimer beaucoup ce qu'on a vu. On a une pièce qui nous parle du présent et de ce qu'on vient de vivre et je trouve que c'est un théâtre de beaux sentiments, pas de bons sentiments. Moi, je trouve qu'elle pense nos
plaies. C'est gentil.
On a besoin de gentillesse. Et c'est de la gentillesse... Si, mais quand elle est faite par cet auteur-là, parce que c'est un auteur
non,
de
plateau.
Non, c'est
pas un auteur.
Moi,
non,
ça me convient très bien.
Collective, non.
Ça m'a fait du bien.
C'est quand même une autrice réelle.
C'est une pièce consolatrice. Et comme elle n'est pas faite d'une manière cucu, j'applaudis d'autant plus qu'elle est extrêmement bien interprétée, y compris par des amateurs.
Encore des femmes.
Fraternité, Contes fantastiques sera en tournée à Tarbes, à Grenoble, à Limoges, à Lyon, à Rennes et encore ailleurs. Kingdom, d'Anne-Cécile Vandalem, dans la cour du lycée Saint-Joseph, c'est à 22h et c'est jusqu'au 14 juillet. Une famille pour fuir le monde et reconstruire un mode de vie idéalisé se réfugie, comme souvent d'ailleurs chez les Nersons, dans la taïga sibérienne. Mais elle est bientôt rejointe par sa branche cousine et rattrapée par tout ce à quoi elle tentait d'échapper. Un drame épique, sick, hein. Librement inspiré une fois de plus d'un film. Et là, c'est le film documentaire de l'excellent Clément Cogitor, Braguigno, où au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du plus proche village, deux familles issues de la communauté des vieux croyants refusaient de se parler. Après cette brouillée, c'est un peu comme les critiques brouillées du Masque et la Plume. Donc rapidement, Jacques, faut-il aller voir Kingdom?
Écoutez, je ne me suis absolument pas ennuyé, c'est à noter. Et je ne me suis pas ennuyé grâce, non pas aux propos que je trouve pas très intéressants, non pas au texte,
alors c'est quoi,
encore très faible, grâce aux acteurs et à la mise en scène. Et j'ai trouvé que on réussissait sur ce, dans cette cour de lycée à faire surgir effectivement la taïga, la forêt profonde, et on passe une soirée vraiment assez fascinante grâce à ça. Mais la, le texte, en plus, je l'ai relu, il est vraiment d'une faiblesse totale.
Oui. Vincent.
Non, ben écoute, c'est une soirée formellement magnifique. Voilà. Hein, Cogitor, c'est un cinéaste, mais aussi un très grand auteur de, d'images, un grand photographe. Et on reste admiratif de ce qu'on voit de cette forêt dans laquelle on a l'impression qu'on peut se perdre grâce aussi à tout un système de caméras très ingénieux. Les enfants jouent bien, les chiens sont des acteurs absolument magnifiques. Et les adultes aussi, mais c'est vrai que l'ensemble est très beau. Et pourtant, tu restes complètement à la porte de ces cabanes dans lesquelles tu ne peux pas rentrer en dehors. Du cinéma, justement, c'est la caméra qui rentre et pas nous. Donc on se demande ce qu'on voit, on se demande ce qu'on nous dit. Et c'est vrai aussi qu'on l'a vu avec Armel un soir de pluie, donc on est arrivé trempé.
Fabienne était là aussi.
Et on a pensé plus au froid qu'on avait qu'au fond de cette pièce.
Fabienne a eu la pluie et à Avignon et à Cannes. Voilà. Armel.
Écoutez, moi, je trouve qu'elle exagère parce qu'elle recopie complètement le film de Clément Cogitor. Ce film qui était court, qui était magnifique, qui a eu des prix d'ailleurs, qui date de, je sais pas, il y a 4-5 ans, en 2017.
Qui était formidable, oui.
Un magnifique film.
C'est un documentaire, encore une fois.
Oui, hein. Un documentaire sur une histoire vraie, sur cette folie, ces forcenés de la taïga. C'était passionnant. Et là, au fond, elle recopie complètement, sauf qu'elle recopie en joli. Alors, par exemple, les petits-enfants... Dans la taïga de Cogitoré, ce sont des vrais sauvageons. Là, ils sont ravissants. Alors, on est sous le charme. Il y a un charme indéniable. C'est joli comme tout. Mais moi, je trouve que par rapport au documentaire qui a servi de base, eh ben, il vaut mieux voir le documentaire.
Les deux Fabiennes, qu'en pense-t-elle, Fabienne Pascaud ?
Moi, je trouve que c'est un peu Heidi chez les survivalistes, quoi. C'est d'une, c'est d'une naïveté. Ça prétend raconter le monde de demain avec toutes ses angoisses écologiques, politiques. Et c'est niais, mais c'est vrai que c'est beau. Et puis alors là, je ne veux pas faire mon Armel, mais c'est vrai que la pauvreté du texte, toujours refaire les adaptations à partir de films, les images vidéo qui sont censées accompagner l'action sans la suivre, ras-le-bol.
Fabienne Darge.
Oui, ben, je vais ajouter, du coup, moi je suis restée très à l'extérieur aussi de ce spectacle. Je suis vraiment restée de l'autre côté du ruisseau et je trouve que c'est une création qui est mal ficelée par rapport à l'inventivité dont elle avait pu faire preuve dans les deux précédentes créations qu'on a pu voir à Avignon. Effectivement, on a l'impression que là aussi, elle a dû manquer de temps, je ne sais pas, mais le texte est très faible, ça c'est vraiment très très faible. Et on ne retrouve pas la magie, l'atmosphère. Et ce qui m'a énormément gênée, comme Armel, c'est que les emprunts au film de Cogitor sont quand même assez, je vais dire, assez grossiers. Et qu'il n'y a pas que cela. Elle emprunte aussi à un livre absolument extraordinaire de Nastassia Martin, qui est cette anthropologue qui s'est battue avec un ours. Et elle ne le dit même pas. Elle n'est même pas créditée, alors qu'on voit bien qu'un des personnages décalque un peu ce qui est arrivé à Nastassia Martin. Je trouve ça gênant. Voilà.
Kingdom, Anne-Cécile Vandalem, qui sera en septembre, octobre, chez nos amis belges, à la fois à Liège et à Bruxelles, et puis ensuite à Lille, Tournai, Angers et Lorient. Et on termine très rapidement, malheureusement, avec Liebestodt, un spectacle de l'Espagnole Angelica Liddell, présenté ici à l'Opéra Confluence, ce spectacle en espagnol surtitré en français et en anglais qui fait se rencontrer, je vais aller très vite, la figure du torero andalou Juan Belmonte et le Richard Wagner de Tristan et Isolde, vous l'avez compris, l'amour et la mort. Fabienne Darge.
Alors, Angelica Liddell, c'est toujours compliqué de parler d'elle, comme de tous les artistes qui ont fait leur succès un petit peu sur le scandale ou sur la provocation. C'est un spectacle plus intime d'Angelica Liddell. Il n'y a pas de créatures qui se battent avec des poulpes ou ce genre de choses. Voilà, c'est un spectacle dans lequel il y a
quand même une prévention. Des scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité de certains spectateurs.
Oui, mais d'une certaine façon, elle en joue. Elle joue avec justement son parcours de performeuse, un peu scandaleuse. Le spectacle offre de très belles images, mais je trouve que sur 1h40, ça ne tient pas. Il n'y a pas de dramaturgie. Il y a de très belles images, quelques belles choses. Il y a surtout quelque chose qui pourrait être très beau par rapport au sacré et au manque de rapport au sacré de notre époque, mais qui ne s'accomplit pas dans le spectacle lui-même. Voilà.
Fabienne Pascaud ne l'a pas vu, Jacques ?
Ben, je pense qu'il faudrait d'abord, première chose, distribuer des bouchons d'oreilles aux spectateurs parce que le son est extrêmement fort. Et Angelica Liddell, comme dans ses précédents spectacles, puisqu'on a déjà vu ça 100 fois déjà, elle veut s'y faire pendant pratiquement tout le spectacle.
Mais elle dit des choses, tellement elle dit fort, pas n'importe quoi.
Non, mais je parle là pour le moment juste du niveau sonore. C'est insupportable. Bon, par ailleurs, s'il y a des gens assez masochiste pour apprécier de voir quelqu'un qui trempe du pain dans le sang menstruel en se frottant le sexe et qui ensuite le mange, et bah, écoutez, allez-y et soyez heureux. Voilà.
Il n'y a pas que ça.
Il y a, pratiquement
une citation dans un livre.
Ou alors vous avez une exhibition d'un mutilé dont on ne se sert que pour le montrer ses mutilations. Je trouve ça.
Non, elle forme le Pietà avec lui. C'est un tableau à la Castellucci.
C'est démodé. On a vu ça déjà mille fois. Évidemment, la provocation à tout prix, ça mène à un cul-de-sac et elle est en plein dedans.
Il n'y a pas de la provocation. Je te trouve sévère. Moi, je ne suis pas un grand fan d'Angelica Liddell, mais là, j'ai trouvé que c'était un peu la claque du festival jusqu'à présent. S'il se passe quelque chose dans un spectacle, c'est dans celui-là.
C'est terrible pour le festival ce que tu viens de dire.
Pas du tout.
Non, il a raison.
Il se dit de très belles choses. C'est la première fois qu'elle dit que si elle est devant des spectateurs...
Elle insulte tout le monde, les acteurs, les professeurs,
Elle dit juste les Français, vous avez de la chance d'avoir des subventions. Et quand on est jeune et qu'on a 16 ans...
Il y avait quelques réactions dans la salle, parce
on ne manifeste pas pour sa retraite. On va dans la rue pour faire la révolution. Voilà, elle a une idée sur ce que nous, Français, et que Espagnols n'ont pas eu, puisqu'ils n'ont pas eu de subventions.
Oui, elle dit c'est une histoire de théâtre, c'est l'histoire de mes racines et l'histoire de mes abîmes.
Et elle dit aussi que si elle vient devant le public, c'est qu'elle est seule dans la vie et qu'elle a besoin d'être aimée. Elle dit des choses très intime. Oh, tu parlais formidable. D'intimité, Fabienne, il y en a beaucoup dans ce spectacle avec des images sublimes et des images qui laissent des traces.
Bon, il y a quelques images très fortes quand même, et dont la Pietà dont tu parles, je suis d'accord.
Au moins, elle nous dérange. Au moins, elle réveille les gens.
Elle dérange qui ? Sur les scènes subventionnées.
Mais, ça reste du théâtre. C'est une artiste. Indéniablement, c'est une artiste.
Mais il y a des mauvaises
artistes. Sa souffrance est réelle. Son malaise est réel. Elle cherche... Tout n'est pas exceptionnel chez Angelica Liddell, mais ça secoue au moins, à côté de toutes les choses, cuculapraline qu'on nous sert tous les soirs.
Mais moi, je vois pas ce que ça secoue.
Il y a une artiste qui vocifère, effectivement, qui est féroce.
Si vous faites ça pour être secoué, bon ben...
Mais non, mais ça fait du bien.
Pour le coup, moi, je trouve qu'il y a de très belles choses, Armelle, mais je vois pas ce que ça secoue, hein. Honnêtement. Je vois pas ce que ça secoue, pour le coup, mais... Je ne vois pas ce que ça secoue.
Ah bah si.
Secoue.
Ben si, il y a des gens qui sont très dérangés. Derrière moi, il y a un monsieur qui criait « Vous aimez vous faire injurier ?» Bon, c'est vrai, parce que les gens, ils croient que c'est vrai, mais c'est pas vrai, c'est du théâtre.
Et moi, ma voisine s'est évanouie quand même.
Mais Peter Hanke avait fait ça il y a si longtemps déjà, vous vous rendez
pas
compte que
tout le monde n'a pas vu. Chacun son chemin.
Enfin, en tout cas, c'est Liebestod, c'est Angelica Liddell. Et je rappelle, pour reprendre le mot de Vincent Josse, que les critiques du Masque et la Plume ont besoin aussi d'être aimés, hein, de temps en temps.
Oui, c'est pour ça. C'est une autre question.
C'est pour ça que vous allez en public. Bon, allez, le temps est venu ici à Avignon de conseils que vous allez donner les uns et les autres, aussi bien aux spectateurs présents au festival qu'à ceux qui pourront peut-être voir ces spectacles quand ils vont tourner à travers la France. On commence avec Fabienne Darge.
Oui, alors tout ce qu'on vient de dire là ne devrait pas laisser croire qu'il n'y a rien d'intéressant dans le IN. Donc moi, je vais te conseiller deux spectacles du IN. D'abord, la trilogie du jeune auteur. Alors là, je m'inscris totalement en faux par rapport à ce que vous avez dit sur le manque d'auteurs. Donc là, on en a un à Avignon qui s'appelle Baptiste Amann, qui a 35 ans.
Mais c'est la Bastille qu'il a créé.
C'est la Bastille qu'il a totalement soutenue. Il est à Avignon, dont il est originaire. Il offre quand même une trilogie à la fois intime et politique, qui a un parcours quand même très fort sur notre époque, sans aucun didactisme. Alors là, pour le coup, voilà, avec un engagement, et c'est quelqu'un qui écrit vraiment et qui écrit très bien. Donc voilà. Et un spectacle absolument magnifique, le plus beau spectacle depuis le début du festival pour moi, qui est le Pinocchio Live, voilà, que signe une jeune femme qui s'appelle Alice Laloy, qui est à la fois marionnettiste et metteuse en scène. Il n'y a pas de marionnettes dans son spectacle. C'est les enfants qui deviennent des marionnettes, qui deviennent des pantins et qui redeviennent des êtres humains. C'est magnifique.
Le conseil de Fabienne Pasco, c'était le mien, mais je lui cède volontiers parce qu'on partage la même passion pour ce
spectacle.
Et sa comédienne.
D'abord, j'ai un peu honte parce qu'on a dit beaucoup de mal de tous ces spectacles qui sont dans le film, mais il faut quand même aller au théâtre.
il faut quand même y aller, parce que même quand on est déçu, on apprend des choses sur nous, sur les autres, sur nos voisins.
Et sur le vivre ensemble.
Exactement. Et ça, c'est fondamental. Donc, allons, continuons d'aller au théâtre. Et oui, bah, c'est Royan avec une autre monstresse
de Marine Diaye.
De Marine Diaye, qui est Nicole Garcia, qui va démarrer à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon le 17.
Jusqu'au 25.
Jusqu'au 25, l'histoire d'un très très beau texte de Marine Diaye qui raconte comment un professeur de français à Royan se trouve totalement déstabilisé parce qu'une de ses meilleures élèves a fini par se suicider après avoir été soumise à des harcèlements.
Et elle est confrontée aux parents de cette jeune fille suicidée.
Exactement, qu'elle n'ose pas rencontrer et qu'ils attendent sur son palier. Et elle n'ose pas monter et elle est dans l'entrée de son immeuble. Nicole Garcia, elle est formidable.
Elle a une
présence électrique. Elle est à la fois méchante, puissante et immensément fragile. Elle est magnifique.
Et puis avec toute la mauvaise conscience qu'a cette femme qui se demande si elle n'est pas un peu responsable. C'est Royan de Marine Diaye, c'est à la Chartreuse du 17 au 25 juillet. Et le livre de Marine Diaye est disponible, le texte, puisque c'était un monologue, est disponible aux éditions Gallimard. Le conseil d'Armel.
Alors malheureusement, ce spectacle est fini à Avignon. Bougez les lignes. Par Bérangère Ventousseau et les merveilleux comédiens de L'Oiseau-Mouche. Il y a une énorme tournée après. Mais je voudrais vous parler d'un absent très rapidement. Vous l'avez remarqué, Gilles Costaz n'est pas avec nous. Il a choisi de s'arrêter, de plus faire le masque et la plume, de plus écrire sur le théâtre comme critique. Mais il vient de publier deux livres. Alors on pense à lui, évidemment. Il y a un Daniel Benoît qui est à l'avant-scène théâtre, et puis il a fait un dialogue en courriel avec un confrère australien, mais qui est prof en Amérique, qui s'appelle Roger Daniel Bensky, et ils discutent sur le théâtre tous les deux, ça s'est édité chez Tertium.
Notre ami Gilles Costaz.
Un spectacle dans le Havre, peut-être ?
Oui. Hein,
la métamorphose des cigognes.
C'est formidable.
Que Jacques l'a noté aussi, je ne veux pas griller ton conseil, mais ça veut dire que... Voilà, on est plusieurs à l'avoir apprécié. C'est un garçon qui s'appelle Marc Arnaud, c'est un seul en scène. Alors, la situation va vous sembler triviale. Il est devant un gobelet et il doit éjaculer dans ce gobelet pour qu'ait lieu une fécondation de vitro avec sa femme qui attend le résultat, si je puis dire, en salle d'anesthésie. Et vont se poser toutes les questions qu'un futur père peut se poser. Il va faire un point sur sa vie, sur sa virilité, sur la paternité à venir. Ce sont des questions quasi philosophiques, existentielles en tout cas. Il est excellent comme comédien, ce Marc Arnaud. Il joue au Train Bleu à 13h50.
Et pour finir, le conseil de Jacques.
Eh ben, mon conseil, c'est d'abord d'aller dans le off, parce que là, il y a des spectacles qui sont pas trop prétentieux.
Et ça se termine plus tard que le In, jusqu'au 30 ou 31 juillet.
Qui donne beaucoup de plaisir, notamment un spectacle qui s'appelle Laurence d'Arabie. C'est l'histoire de Laurence d'Arabie, racontée par 8 comédiens et 3 musiciens. Ils ont pratiquement rien, pas de décor, etc. Et ils arrivent à tout faire surgir par leur seul talent. On est dans le désert, aussi bien que dans le film de David Jean. Ça se joue au Théâtre des Halles à 21h30. C'est formidable et jusqu'au 30 juillet.
Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Fabienne Darche, Fabienne Pascot, Armel Elliot, Vincent Josse, Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir à la technique dans la cour du cloître Saint-Louis d'Avignon il y avait, et je les remercie beaucoup, Eric Audra, Jason Taous, Julie Garot ainsi que Franck Malabry pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien que dans une semaine, on commentera en direct dimanche prochain le palmarès du 74e Festival de Cannes et que les enregistrements en public reprennent à l'Alliance française à partir du 19 août. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.